Jean-Yves Vautier, bonjour. Vous êtes
Bonjour.
professeur de sociologie urbaine à l'Université Lyon 2. Vous avez beaucoup travaillé sur les mobilités résidentielles. Comment cette forme de mobilité géographique, elle peut être influencée par la socialisation des individus?
Alors pour répondre à la question, il faut à mon avis quand même rappeler en deux mots ce que recouvre cette notion de mobilité résidentielle. Puisque derrière ce terme mobilité résidentielle, tout comme d'ailleurs le terme de choix résidentiel, il y a différentes dimensions. C'est à la fois où ça peut être un changement de localisation, ça peut être un changement de type d'habitat, ça peut être un changement de statut d'occupation. Donc derrière mobilité résidentielle, on a tout ça. Et puis si on prend simplement le changement de localisation, on sait qu'on distingue hein, classiquement des mobilités résidentielles de courte distance et des mobilités résidentielles de longue distance. Voilà. Alors, quelle que soit finalement la dimension qu'on prend, et si on prend de façon globale cette notion de mobilité résidentielle, il y a tout un ensemble de facteurs qui interviennent, hein, ou qui déterminent, qui structurent les mobilités résidentielles. Donc, il y a des facteurs qui relèvent, par exemple, du domaine familial, hein, un certain nombre d'événements familiaux, la naissance d'un enfant, une séparation, quoi d'autre? Qui vont évidemment avoir des effets possibles sur les mobilités résidentielles. Il y a des dimensions d'ordre professionnel, voilà, changement d'emploi, le fait d'être au chômage va aussi agir sur ces mobilités résidentielles. Donc il y a ces éléments-là. Il y a des éléments qui renvoient au contexte locaux. Les prix des loyers, les prix des biens immobiliers vont évidemment structurer les mobilités résidentielles des individus. Mais dans tout cet ensemble, qui n'est pas exhaustif ici dans nos propos, la socialisation des individus intervient bien entendu également dans la structuration des pratiques de mobilité résidentielle des individus. Alors, quand on dit la socialisation, on doit dire les socialisations, puisqu'en fait, il y a là aussi hein, différents registres de socialisation qui vont plus ou moins influencer ces mobilités résidentielles. Pour en prendre deux, ici, il y a d'abord la socialisation familiale. Et on sait à partir d'un certain nombre de travaux, en particulier ceux de Catherine Monvalet et d'Anne Gottman, qu'il y a par exemple des familles de propriétaires et des familles de locataires. Donc le fait d'avoir été socialisé dans un certain type de famille associée à un type de statut d'occupation va structurer ensuite le choix en termes de ce type de statut d'occupation des adultes. Voilà. Et puis il y a un autre domaine de la socialisation qui intervient dans les mobilités résidentielles, c'est la socialisation résidentielle elle-même, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir grandi dans tel ou tel contexte résidentiel qui à l'âge adulte va aussi influencer peu ou prou les choix et les mobilités résidentielles des individus. Voilà, le fait d'avoir habité plutôt à la campagne, le fait d'avoir habité en maison ou plutôt en appartement, tout ça, cette socialisation, ces expériences résidentielles vont également structurer les mobilités résidentielles des individus. Et c'est pas seulement vrai de ces logements d'enfance, c'est l'ensemble des logements et des quartiers dans lesquels ces individus ont vécu qui vont également structurer à un moment donné quand les individus vont avoir entre guillemets à choisir sous contraintes et ressources par exemple hein, leur localisation résidentielle bah, plutôt un quartier central ou plutôt un quartier périphérique etc. Et par exemple, voilà, quand on a habité un certain temps dans un quartier excentré, dans lequel il n'y avait pas de commerce, dans lequel c'était bruyant, eh ben, on va aller rechercher éventuellement un tout autre type de contexte plus central, plus calme, par exemple.
Et en retour, est-ce que le concept de trajectoire résidentielle, il permet de penser les effets socialisants, cette fois-ci, de ces mobilités résidentielles?
Alors, dans la notion ou le concept de trajectoire résidentielle, je dirais qu'il y a les deux, en fait. Hein, puisque la trajectoire résidentielle, elle est à la fois précisément le produit de ces socialisations, aussi bien familiales que résidentielles. Et en même temps, la trajectoire résidentielle a précisément des effets socialisateurs, qui jouent d'ailleurs pas seulement sur la mobilité résidentielle, mais qui jouent sur l'ensemble des dimensions de l'existence des individus et l'ensemble de leur manière de penser, de voir, d'agir, etc. Et on a aujourd'hui quand même un certain nombre de travaux en sociologie qui, par exemple, dans domaines qui sont plus ceux, par exemple, d'études de la stratification sociale, vont mobiliser à la fois la notion de trajectoire résidentielle et s'intéresser aux trajectoires résidentielles pour, par exemple, faire apparaître des différenciations internes à l'intérieur de catégories sociales. Bon, je pense en particulier à l'ouvrage sur la France des petits moyens, hein, qui montre bien comment à l'intérieur des fractions des classes moyennes vont se différencier très fortement des individus, précisément au regard de leur trajectoire résidentielle, puisque précisément cette trajectoire résidentielle a des effets socialisants sur leur manière de penser, de voir, d'agir, etc.
Vous avez aussi travaillé plus récemment sur les pratiques spatiales des jeunes enfants à l'échelle d'un quartier. Est-ce que les enfants apprennent à se déplacer différemment à l'intérieur d'un quartier ?
Alors là aussi, hein, pour être précis, j'ai effectivement travaillé sur les pratiques spatiales des enfants, en l'occurrence d'enfants âgés de 9 à 12 ans, à l'intérieur de leur quartier, mais également de façon plus large sur les pratiques spatiales des enfants dans la ville, et donc également leur mobilité dans les autres quartiers de la ville dans lesquels ils résident. Au cours de recherches que j'ai menées avec des collègues, donc Sonia Lehmann-Frisch, Anaïs Collet, Isabelle Malon, et de recherches qui ont été menées en partie à Paris et en partie à San Francisco, dans différents types de quartiers, des quartiers gentrifiés, des quartiers populaires, des quartiers bourgeois. Et effectivement, les enfants ne se déplacent pas de la même manière dans leur quartier, ni à Paris, ni à San Francisco, et se déplacent pas de la même manière selon qu'ils habitent un quartier populaire, un quartier bourgeois, un quartier gentrifié, en lien également avec un certain nombre de leurs caractéristiques sociales. Voilà, les filles se déplacent pas de la même façon que les garçons, les enfants aînés de la fratrie ne se déplacent pas de la même façon que les benjamins. Voilà, il y a donc des différences effectivement dans les pratiques spatiales des enfants, à la fois dans leur quartier et hors de leur quartier. Pour prendre un exemple, le déplacement du domicile à l'école, qui est quand même un trajet extrêmement courant pour des enfants de 9 à 12 ans, n'est pas du tout le même à San Francisco et à Paris. San Francisco est une ville beaucoup moins dense que Paris. L'école ne se trouve pas toujours dans le quartier, donc les déplacements domicile-école des enfants est plutôt fait en voiture, alors qu'en France, à Paris, il se fait plutôt à pied. On pourrait creuser cette opposition et observer, par exemple, aussi bien dans le cas de San Francisco, mais plus encore dans le cas de Paris, que ce déplacement domicile-école est extrêmement variable selon les enfants. J'évoquerai ici trois cas de figure assez différents. On peut, dès le CM1, se déplacer seul, aller seul de son domicile à l'école sans aucun accompagnement. On peut, à l'inverse, jusqu'à la fin du CM2, aller à l'école avec ses parents. Et puis, on a des cas de figure intermédiaires où on va faire une partie du trajet accompagné, et puis la fin du trajet éventuellement seul. Ça peut également varier entre l'aller et le retour. La configuration peut être différente. Donc, les manières de se déplacer, effectivement, des enfants sont extrêmement différentes. J'ai évoqué qu'un exemple, hein, celui du domicile à l'école. Il y a plein d'autres déplacements dans le quartier ou dans la ville des enfants. Donc il y a des différences et il y a également des différences dans les manières, dans les formes d'apprentissage de ces mobilités. Voilà, les parents mettent en place différents types de stratégies pour apprendre en quelque sorte à leurs enfants à se déplacer à la fois dans le quartier et dans la ville avec soit des modes d'accompagnement, soit des modes de surveillance. Voilà, il y a différentes manières et différentes formes d'apprentissage, et ces différentes formes à la fois d'apprentissage et de pratique de mobilité vont donner aux enfants des compétences en matière de mobilité qui vont être là aussi variables selon les milieux sociaux, selon les âges, etc., etc.
Du coup, cela signifie que ces pratiques de mobilité pendant l'enfance, elles peuvent influencer les pratiques de mobilité plus tard, à l'âge adulte, dans le parcours de vie de ces enfants ?
Alors, j'allais dire par hypothèse, oui, très clairement. Et après, c'est très difficile, en fait, de saisir les effets. Les effets de cette socialisation à la mobilité, puisque ça supposerait effectivement de pouvoir suivre les enfants bien au-delà du moment où on les observe, quand ils acquièrent ces formes de mobilité, et de façon presque inversée, hein, puisqu'en gros, quand on travaille sur l'articulation entre mobilité et socialisation, et notamment sur les effets socialisateurs, enfin sur les effets de la socialisation sur la mobilité ou réciproquement les effets socialisateurs de la mobilité, on est toujours tiré en fait entre deux approches un peu différentes. La première, c'est précisément de travailler sur la socialisation liée à la mobilité en train de se faire, mais à ce moment-là, on ne peut pas complètement, totalement en saisir les effets. Il faudrait pouvoir, encore une fois, suivre les enfants très longtemps. Ou alors on prend les choses de façon inversée, c'est-à-dire qu'on observe des individus adultes à un moment donné et on va reconstituer a posteriori leur socialisation primaire, éventuellement à la mobilité. Voilà, avec tous les effets de reconstruction qu'il peut y avoir.
Mmh. Très bien.
Mais bon, très clairement, il est à peu près indéniable que ces pratiques de mobilité, cette socialisation à la mobilité, y compris enfantine, a des effets sur le rapport à la mobilité des adultes. Mmh.
Quels sont, selon vous, les chantiers de recherche prometteurs qui permettraient de mieux penser les liens entre la socialisation et les pratiques spatiales des individus, en particulier leurs déplacements dans l'espace géographique ?
Alors, dans le prolongement exact de ce que je viens d'évoquer, à mon avis, un des chantiers majeurs consisterait précisément à engager des recherches un peu dans le format de la recherche ELF, hein, c'est-à-dire de suivi, effectivement, de cohortes, et donc pouvoir à la fois saisir leur socialisation et l'articulation socialisation-mobilité à des moments différents de l'enfance, et puis pouvoir prolonger par un suivi longitudinal qualitatif, hein, ces enfants devenant adultes, adolescents, puis adultes, et examiner effectivement quelles sont leurs mobilités, et voir en quoi précisément leur socialisation à la mobilité est structurante de leur mobilité, à la fois quotidienne d'ailleurs et résidentielle. Donc des approches longitudinales, et en même temps, ce qui me paraît décisif, qualitatives. Puisque un certain nombre de travaux, et je pense en particulier à ceux d'Anne Gottman, montrent qu'il n'y a pas de lien strictement mécanique entre des pratiques de mobilité passées et des pratiques de mobilité présentes. Elle prend l'exemple des individus qui ont eu des mobilités résidentielles dans le cadre d'institutions, les militaires, qui se retrouvent en fait complètement démunis dès lors qu'ils ont des pratiques de mobilité individuelles. Ils ne savent pas comment faire pour appeler EDF, se faire installer le téléphone, etc., etc. Et elle insiste aussi sur le fait que c'est bien le vécu de ces pratiques de mobilité qui sont structurantes plus que le nombre, par exemple, de mobilités. Donc si on veut effectivement pouvoir saisir ces effets, il faut impérativement, à mon avis, passer par des approches qualitatives. Donc ça, c'est un premier chantier. Il y a un deuxième chantier, j'en citerai que trois, pour ne pas être trop long. Il y a un deuxième chantier qui me paraît sans doute intéressant, c'est de travailler de façon comparative, précisément sur des classes d'âge identiques, et de comparer des individus qui se caractérisent par une forte mobilité résidentielle et des individus qui se caractérisent par une très faible mobilité résidentielle. Et voir en quoi, précisément, ces mobilités résidentielles sont ou non ont pour effet de construire des manières de penser, de voir, d'agir qui seraient différentes. J'ai en tête, en gros, l'opposition qu'on trouve dans les travaux de l'école de Chicago, et en particulier chez Park, entre deux figures, la figure du juif errant d'un côté et la figure du paysan de l'autre, et les propos de Park, mais qui ne sont pas complètement, argumentés d'un point de vue démonstratif, et de dire que le juif errant, parce qu'il est mobile, acquiert des manières de penser abstraites, etc., alors que le paysan, qui lui est ancré, a des manières de penser extrêmement concrètes, etc. Donc je dirais que c'est une intuition qui me paraît tout à fait intéressante et qui pourrait amener précisément à être testée à partir d'une comparaison un peu systématique entre des populations présentant des propriétés sociales à peu près proches, des âges à peu près égales, donc je ne sais pas, comparer des gens de 40, 50 ans par exemple, caractérisés soit par une très forte mobilité résidentielle, soit par une très faible, et voir effectivement, voilà. Et là je pense qu'on saisirait assez bien les effets ou non socialisateurs de la mobilité. Voilà. Dernier chantier, parce que j'ai déjà en évoquerai trois qui me paraîtraient effectivement intéressants à creuser, parce que je trouve qu'il est assez peu investi pour l'instant dans la recherche, c'est celui des mobilités de loisirs et des mobilités en particulier touristiques. Voilà. On a beaucoup de travaux sur la mobilité résidentielle, on a beaucoup de travaux sur les mobilités quotidiennes et en particulier sur des mobilités liées au travail. Mais de mon point de vue, on a très très peu de travaux sur les mobilités touristiques et les effets, là aussi, socialisateurs de ces mobilités touristiques. Bon, j'ai évidemment en tête la thèse de Jennifer Bidet sur les vacances au bled, qui aborde un peu cette dimension-là, et je trouve que c'est extrêmement une piste qui me paraît tout à fait intéressante, parce que je pense que dans ces mobilités-là, là aussi, se construit des manières de penser, de voir, d'agir, qui sont extrêmement importantes, et j'ai toujours, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de mixité sociale, et j'ai toujours pensé, mais je ne l'ai jamais éprouvé en termes de recherche, que la manière dont les gens se positionnaient sur des questions de mixité sociale ne pouvait pas être simplement saisie à partir de leur lieu de résidence et de leur quotidien, mais qu'elle devait prendre en compte aussi ce qui était d'autres confrontations à la diversité ou à l'altérité, et notamment celles qui sont dans les mobilités touristiques. Voilà. Et donc éclairer y compris les positionnements à la mixité sociale dans le quotidien par une prise en compte de ces mobilités touristiques me paraît effectivement une piste intéressante, et donc un autre chantier possible sur l'articulation entre mobilité et socialisation.
Merci beaucoup.